Prions. Seigneur, nous voulons consacrer quelques instants à la méditation d'un chapitre de ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de nous y aider, parce que nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que, durant ces quelques instants, tu nous aides à fixer le regard sur toi, à nous concentrer sur ce que tu veux nous apporter, à rester avec toi comme Marie qui t'écoute lorsque tu lui parles. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être à tes pieds pendant ce moment. Garde-nous d'être ailleurs avec nos pensées. Garde-nous aussi, Seigneur, d'avoir une oreille peu attentive. Garde-nous, Seigneur, de ne plus avoir de mémoire pour ce que tu nous apprends. Nous voulons retenir et mettre en pratique ta parole. Ô Seigneur, viens à notre secours, encore ce matin, par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur, en ton nom. Amen. Voilà, chers amis, la joie est totalement partagée pour moi d'être parmi vous. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus vu et on est heureux de se revoir tous. J'ai eu à cœur ce deuxième chapitre de Philippiens qui est magnifique parce que il est étonnant. Philippiens, c'est l'épître du contentement. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, etc. C'est toujours une épître de réjouissance. Et pourtant, voici tout un chapitre qui est consacré à l'humilité. Et on a parfois difficile à trouver la joie dans l'humilité. Le mot est devenu tellement péjoratif avec l'évolution de la langue française que c'est un peu difficile à concevoir. Alors, je lis ici les trois premiers versets à partir du verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité. » Voilà le mot pour ce chapitre. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'ai mis en gras deux mots, joie et humilité. Voyez-vous comme c'est associé dans ce texte. Et combien c'est vrai que toute relation humaine qui est basée sur l'humilité réussit. Que ce soit une relation amicale, une relation familiale, professionnelle même, ou relation ecclésiale, dans l'Église, entre voisins. Nous vivons en société. Mais l'humilité est fondamentale. Et dans tout ce chapitre, Paul présente l'humilité comme un atout. Un atout pour les relations, une clé pour être heureux, pour grandir spirituellement aussi, pour notre développement spirituel, pour l'équilibre et la croissance de l'Église. Et Paul va donner quatre exemples concrets. C'est toujours mieux de comprendre par un exemple. Et c'est vrai que ce qui soude l'Église, c'est l'humilité. Et ce qui la divise, c'est le contraire, c'est l'orgueil. Et l'Église des Philippiens semblait menacée par un certain individualisme, un certain égoïsme entre les membres. Et au chapitre 3, il va parler de l'influence de faux docteurs qui viennent de l'extérieur et qui influencent dans l'Église. Et au chapitre 4, il parle de désaccords qu'il y a entre certains membres, comme Évodie et Saint-Tiche qui se disputaient. Et il dira, ayez un même sentiment dans le Seigneur. Paul prône l'unité dans les sentiments en Christ. Il ne cherche pas nécessairement l'uniformité. L'uniformité s'obtient dans un groupe de personnes par obligation, par un dictateur, un dominateur, un leader ou un système. On voit jusqu'où ça mène, des dictateurs qui veulent l'uniformité. C'est une unité facile, mais qui est en dehors du plan divin, en dehors de la liberté en Christ. Et pour arriver à l'unité dans la liberté de Christ, avec respect de différentes opinions, sans que ça aboutisse à d'interminables discussions, il faut une maturité. Il faut une maturité spirituelle. Il faut de l'amour, de la compassion, il faut de la miséricorde. Il faut du respect, de l'estime les uns envers les autres. Il faut les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'humilité en un mot. Combien cela est important. Alors, l'Église devient une source de joie. On sera loin de cet échec qu'on constate si souvent, comme celui qui a dit, je crois que c'était Sartre, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Mais n'oublions pas alors que pour les autres, l'enfer, c'est nous. Alors ces mots, être humble, humilité, humiliation, évoluent dans la langue française négativement. Et ils évoquent plus de défauts que de qualités. Ils évoquent la faiblesse, le manque d'ambition, le manque d'initiative. Les humbles sont comme des suiveurs, des gens qui restent dans l'ombre, qui veulent être effacés. C'est une qualité qui n'est plus recherchée. On veut être compétitif. Il faut être le meilleur en tout. Et il y a tout un mouvement psychologique actuellement qui affecte le christianisme et qui prône la valeur de l'être humain, la grandeur de l'être humain, jusqu'à oublier Christ, la valeur et la grandeur de Christ. Alors nous chantons « Je suis fort, fort, fort ». Oui, mais qu'est-ce qui fait notre force ? Par le sang de Christ. Plus que vainqueur, oui, par nous-mêmes, par le sang de Christ, heureusement. Et le sang de Christ est facilement négligé et remplacé par la grandeur de nous-mêmes. Nous croyons trop vite à des exaucements de prières, grâce à nos prières. Nous voulons être des seigneurs. Et nous oublions que nous sommes des serviteurs. Nous faisons des miracles. Il y a un nouveau chant qui dit ça. Nous sommes des faiseurs de miracles. Nous sommes des conquérants. Mais est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Christ en nous? À qui le mérite? À qui la grandeur? Alors, parmi les sujets bibliques préférés actuellement, dans beaucoup de mouvements chrétiens, il y a le leadership, l'autorité. Comment faire pour avoir de l'autorité? Alors, ces mots comme conquête, domination, victoire, réussite, abondance, succès, voilà les nouveaux mots-clés évangéliques. Et pourquoi pas l'humilité? Ah non, ça, on n'en parle pas. L'humilité. Alors, essayons de définir le mot. J'ai recherché plusieurs définitions et il y en a une que j'ai trouvée vraiment surprenante. C'est celle que donne Wikipédia pour le mot humilité. Alors, on nous dit que ça vient du mot latin humilitas, qui dérive de humus. Ben, le humus, on connaît le humus. c'est la terre. Ça signifie terre. Donc la définition continue en disant c'est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit d'une façon réaliste. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même. Par exemple, l'orgueil, l'égocentrisme, le narcissisme et le dégoût de soi. Visions qui peuvent relever de la pathologie, qui sont maladives chez certaines personnes, tellement c'est grave. Elle va de pair avec une maturité affective ou spirituelle. Elle s'apparente avec une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de l'univers. Donc ça, c'est vraiment une définition magnifique. Et dans la définition, on distingue entre modestie et humilité. Parce que la modestie est l'effet visible et occasionnel de l'humilité. Donc, la modestie peut être intentionnelle, elle peut être intéressée, elle peut être voulue par moment pour obtenir quelque chose, et donc on appelle ça fausse modestie. L'humilité, par contre, est la vertu profonde qui caractérise une personnalité. Et il y a une citation remarquable de Vauvenargues, un écrivain du XVIIIe siècle, qui a dit « L'humilité, c'est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. » Quand on réalise qu'on est bas par rapport à Dieu, c'est lui qui est grand, c'est lui l'important. C'est lui le Tout-Puissant, ce n'est pas moi. Alors, ce mot bassesse, j'ai trouvé intéressant parce que c'est le mot que Marie, mère de Jésus, a employé quand elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et Marie s'exprime sur la réalité qu'elle perçoit de sa propre personnalité par rapport à la grandeur de Dieu, c'est la bassesse. Belle humilité dans cette phrase. Alors, je disais, Paul emploie quatre exemples dans Philippiens 2, et le premier exemple est le meilleur du monde. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vraiment un exemple merveilleux de vraie humilité. Que pouvons-nous dire sur Jésus-Christ? C'est les versets 5 à 8 qui en parlent et qui disent « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparaît comme un vrai homme, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Alors, voyez ici les caractéristiques de l'humilité de Christ qui sont remarquables. Premièrement, il était l'égal de Dieu. Donc, il était Dieu. Et il devient l'égal de l'homme. Il devient homme. Et ce passage affirme clairement que Christ est Dieu, l'égal de Dieu, et que Christ est depuis l'éternité, et qu'il est créateur, que la création s'est faite par lui. Et il y a plusieurs autres passages qui affirment que Christ est Dieu, parce que encore aujourd'hui, il y en a qui en doute, souvent la Bible en main, on vient discuter à vos portes. Et c'est bien de se rappeler les passages de la Bible parfois qui disent que Christ est Dieu. C'est facile à retenir. Jean 1, tout le chapitre. Colossiens 1, Hébreux 1, Voilà, c'est facile à retenir. Ce sont les passages les plus importants et peut-être les plus clairs. Colossiens 1. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc en Dieu, Christ n'avait besoin de rien. Il était Dieu. Il régnait sur sa création, sur l'univers. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un trésor à conserver jalousement. Jésus n'a pas pensé qu'à lui-même, il pensait aux autres. Et son humilité était de penser, je ne veux pas garder mes privilèges pour moi-même. Je dois les mettre au service des autres et je suis prêt à en payer le prix. Alors c'est tout un comportement opposé qu'on remarque chez Satan. Parce que de créature qu'il était, son orgueil le voyait déjà sur le trône du Créateur. Mais Jésus, lui, était le Créateur et il devient volontairement homme. Et cette mentalité vaniteuse de Satan a tenté Adam et Ève en leur disant « Vous serez comme Dieu ». Et empêchant Adam et Ève n'ont fait que penser à eux-mêmes. Et on fait totale abstraction de leur Créateur. Et avec eux, toute l'humanité a été plongée dans le péché, la souffrance et la mort. Mais l'humilité, le sentiment de Christ, il nous aide à vivre harmonieusement dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de se cacher devant Dieu. On vit dans la lumière, on vit dans la vérité, on sait vivre les uns avec les autres. Les uns les autres, combien de passages il y a dans la Bible avec cette expression, les uns les autres. Alfred Kuhn a écrit un beau livre à ce sujet, avec tous ces passages. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres, édifiez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, ne nous jugeons pas les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, etc. Les autres ne sont plus un enfer pour le chrétien qui est animé de l'humilité de Christ. Deuxièmement, il était Dieu et il devient serviteur. Quelle différence! On sait que Jean-Jacques Rousseau a écrit de fort belles choses sur l'éducation des enfants. Pourtant, lui-même, de son vivant, il a abandonné ses propres enfants. C'était un théoricien. Il connaissait bien la théorie est belle, mais la pratique laisse à désirer. Et Paul, ici, dans ce passage, il décrit les étapes de l'humiliation de Christ. Ce sont des étapes concrètes. Et Christ quitte le ciel et se dépouille de ses droits. Il devient humain dans un corps physique, en naissant dans une étable. Et dans ce corps, il va vivre toute la condition humaine. Il devient serviteur. Il est obéissant. Il ira jusqu'à mourir à la croix en sacrifice. Il passe du ciel à la terre, de la gloire à la honte. De maître, il devient serviteur de la vie éternelle. Il connaît la mort de la croix. Alors lors de la première scène, Jésus a donné un exemple extraordinaire. Il va laver les pieds de ses disciples. Jésus prend la place du domestique. Christ est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs, nous dit Matthieu. Alors il ne se sert pas en premier, c'est d'abord les autres. Il se sert en dernier, comme Josué l'a fait lors du partage du pays conquis. Lui qui avait conquis le pays, il se sert en dernier. C'est un exemple d'humilité que nous voyons dans la Bible. Après le passage du Jourdain et la prise de Jéricho, il y a la conquête du pays de Canaan, ça prendra 7 ans. Et au fur et à mesure que Josué avance, il donne le pays conquis à différentes tribus d'Israël. Dans Josué 13, c'est Ruben. Au chapitre 15, c'est Judas. 16, Ephraïm. 17, Manassé. 18, Benjamin. Siméon, Zabulon et les autres. Et puis, à la fin, tout à la fin, en fin de compte, Josué aura sa part. En dernier lieu. Troisièmement, il est le Dieu suprême et il devient obéissant. Généralement, on accepte de faire quelque chose si cela nous rapporte, si cela nous met en valeur. À la rigueur, on veut bien faire quelque chose qui ne nous coûte rien. Mais quand ça nous coûte quelque chose, qui veut le faire? Qui va le faire? Qui veut aller jusqu'à que cela nous coûte la vie? Christ avait cet esprit d'obéissance et de sacrifice. L'esprit de sacrifice, c'est faire quelque chose même qu'on n'aime pas faire et qu'on parvient à faire du mieux qu'on peut pour la gloire de Dieu et pour servir le prochain. Alors sommes-nous disponibles à la demande? Pouvons-nous être dérangés pour un service? Avec l'humilité, l'esprit de sacrifice peut nous permettre de faire même ce qu'on n'aime pas faire. Ça s'appelle en français l'abnégation. Si vous n'aimez pas aider les gens, vous n'aimez pas conduire quelqu'un, par exemple, mais avec l'humilité, vous parviendrez à le faire. Vous n'aimez pas prier, vous n'aimez pas témoigner, vous n'aimez pas donner, vous n'aimez pas visiter des malades, vous n'aimez pas passer du temps dans la présence de Dieu, vous n'aimez pas lire la Bible. Mais avec un esprit de sacrifice, vous parviendrez à le faire et vous finirez à le faire avec goût. Quatrièmement, il est éternel et il passe par la mort de la croix. C'est tout à fait surprenant. Le combat était terrible pour Christ. Pensez à ce combat dans le jardin de Gethsémané, où il ne pouvait compter sur l'aide de personne. Ses meilleurs disciples s'endormaient. Qui peut aimer passer par une telle souffrance, par la souffrance de la crucifixion? Personne ne peut aimer cela. Pourtant, il décide de se rendre obéissant et dira « Non point ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Alors, l'exemple de Jésus se termine par la gloire, évidemment, parce que Dieu honore celui qui s'humilie. Voyez le verset 9, 10 et 11. « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'humilité paye toujours. Elle produit la gloire. Christ a toujours glorifié son Père céleste. Il n'a rien accompli sans le consentement du Père. Et tout ce qu'il fait vise la satisfaction du Père. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est un principe que nous retrouvons dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible. Celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps voulu. 1 Pierre 5, 6. Et pourtant, Christ n'avait aucune apparence glorieuse. On pense évidemment à Ésaïe 53, ce merveilleux chapitre sur la venue de Christ, avec des mots fantastiques sur l'humiliation de Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et le chapitre se termine avec la grandeur de la gloire de Christ concernant sa postérité, qui est l'Église. Il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Quelle belle image de ce que sera, deviendra ou doit être l'Église épouse de Christ. Et ce principe, vous le verrez dans toute la parole de Dieu. Joseph a été humilié 13 ans avant de devenir le gouverneur de l'Égypte. Jacob servira péniblement durant 14 ans avant d'entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu. Alors, Paul va donner quelques versets sur lui-même parce qu'il veut donner aussi l'exemple de ce qu'est l'humilité à travers ce qu'il a compris dans sa communion avec le Seigneur. Et il dira par exemple au verset 16, « Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Au jour de Christ, je pourrais me glorifier, mais pas maintenant. » Et c'est quelque chose que Paul a compris, parce qu'il a compris qu'il ne faut pas se glorifier. Il faut laisser ça au jour de Christ. L'humilité, il a dû l'apprendre, et dira encore au verset 17 et au verset 18, « Je sers déjà de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. » L'épître de la réjouissance. Mais pourquoi? Pour être un sacrifice. Terrible, quand même, cette association des deux pensées. Alors, Paul, de nature, il avait un caractère fort. C'était un meneur. Et il était prêt à tout pour arriver à sa fin. Et lorsqu'il s'est converti, Ananias avait reçu cette parole de Dieu le concernant. Où c'est Christ qui lui dit « Je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Paul aimait parler de lui-même, il aimait parler de ses expériences. On trouve plusieurs pages où Paul parle de lui-même. Il consacre des pages à défendre son ministère. Parfois, il aime se glorifier. Au point qu'il... En écrivant, il se reprend, comme dans ce texte fantastique de 2 Corinthiens 12, le verset 1, où il est dit « Il faut se glorifier !» Non, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Et dans ce même chapitre, il va parler de son handicap, qu'on ne connaît pas bien, on suppose un problème de la vue, et il a voulu en être délivré. Il va prier plusieurs fois pour ce problème, mais Dieu va lui répondre « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, dans l'humiliation, dans l'humilité. Et Paul comprend que son orgueil naturel est un frein pour l'œuvre de Dieu. Il comprend qu'il est préférable de rester dans l'humilité afin que l'œuvre de Dieu puisse se faire avec gloire. Et il donnera comme conclusion, je me plais dans la faiblesse, je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors c'est un apprentissage, il a dû apprendre parce que c'était contre nature, ça c'est contre sa nature. Et il dira dans cet épître de Philippiens, un peu plus loin, au chapitre 4, « J'ai appris. J'ai appris à être rassasié, et j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. » Il ne dira jamais « Je suis totalement délivré de l'orgueil. » Et cela est quand même surprenant. Parce que quelqu'un qui déclare être délivré de tout orgueil prouve, en le disant, qu'il ne l'est pas. Mais c'est en marchant en conformité avec Christ, en conformité à sa parole, qu'on apprend l'humilité en progressant, en avançant. Pierre aussi s'exprime sur l'importance de l'humilité dans sa première épître en disant « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux, c'est un principe divin. C'est un principe de Dieu. Le pasteur James Woody de Montpellier, que certains connaissent peut-être d'avoir voyagé dans le Midi, a dit cette belle phrase, « L'Éternel prend soin de ceux qui sont menacés de famine, de stérilité, d'extinction. Dieu ramène à la vie ce qui est menacé, desséché, fût-ce même tout un peuple qui ne valait pas plus que des ossements secs. Comme Israël, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait d'Israël? C'est surprenant, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et Israël vient d'où? Ressuscité d'ossements secs. Alors, pour Paul, il est évident que Dieu a pu utiliser ses dons naturels, son intelligence, son instruction, mais au service, toutes ces qualités-là ne valaient rien. Il devait passer par une plus grande qualité qui s'appelle humiliation. Et je crois que là, nous avons quand même des leçons à apprendre, parce que aujourd'hui, même en milieu chrétien, on parle énormément de direction. On veut être de bons meneurs d'hommes. Et ce sont des formes parfois de manipulation qui sortent totalement du plan de Dieu. Ça n'a plus rien de l'esprit de serviteur auquel nous sommes appelés. On parle de réussite. La santé, l'abondance, prospérité, succès. Pourtant, le chrétien passe par des tribulations, il passe par des épreuves, il sera persécuté. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. En parlant de la sorte, on occulte la moitié de l'évangile. Hans Kung a dit cette belle phrase, « Celui qui prêche la moitié de l'Évangile est aussi mauvais que celui qui prêche seulement l'autre moitié de l'Évangile. » Donc Paul a compris le sens du sacrifice. « Même si je sers de libation pour le sacrifice de votre foi, je m'en réjouis. » Je m'en réjouis. Il comprend que pour lui, il arrive à sa fin. Il est prisonnier sous Néron et d'autres vont continuer l'œuvre. Et il a appris à être abandonné par tout le monde, il a appris à ne plus être apprécié. Mais pour lui, l'important, c'était de faire l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Et Paul trouve encore des initiatives à prendre malgré l'humiliation. et il pense envoyer bientôt Timothée au frère de Philippe. Alors il va envoyer Timothée à Philippe, qui aura une responsabilité dans cette église, et puis plus tard aussi dans l'église d'Éphèse, où il deviendra l'évêque, le principal ancien, et il va continuer l'œuvre après Paul. Alors voilà, ça c'est le troisième exemple, qui est l'exemple de Timothée, que nous lisons à partir du verset 19. Alors, il s'est converti avec Paul, Timothée, lors de son premier voyage missionnaire à Lystre, ça se trouve dans Actes 16. Il avait une maman, Eunice, et sa grand-mère, Loïs. Sa mère était juive, et il avait déjà, grâce à cela, dès son enfance, une bonne éducation dans la parole de Dieu. Timothée, dès qu'il va se convertir, il va s'engager dans l'église locale durant quelques années. Et quand Paul va revenir à Lystre pour son deuxième voyage missionnaire, il sera étonné de revoir Timothée, parce que le garçon avait fait de grands progrès dans la connaissance et dans le service chrétien. Il était vraiment engagé dans l'église, il avait sa place. Et les gens rendaient de lui un bon témoignage, nous dit-on dans Actes 16. Alors, comme Paul avait besoin d'un équipier pour remplacer Jean-Marc, il va lui proposer de venir avec lui pour continuer son voyage. Et il sera vraiment très, très utile, parce que, regardez ce qu'il dit ici aux Philippiens, « Je n'ai personne d'autre ». Entre parenthèses, j'ai personne d'autre que Timothée ici à Rome qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Quelques années plus tôt, Paul avait écrit l'Épître aux Romains. Vous vous souvenez de ce dernier chapitre de l'Épître aux Romains qui est sublime, chapitre 16, où il y avait toute cette liste de salutations. Il y avait 26 personnes qui saluaient dans cette église. Maintenant, Paul est en prison à Rome et ces 26 personnes-là, normalement, devaient l'entourer, devaient l'aider. Où sont-ils ? Il n'y a plus personne qui prend sincèrement à cœur la situation des autres parce qu'ils cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. Donc Paul parle ici de l'humilité de Timothée et il exprimera beaucoup d'affection pour ce garçon. À plusieurs endroits dans ses lettres, il dira, par exemple au verset 22, « Il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » C'est touchant, n'est-ce pas ? C'est beau. Quand il écrira à Timothée, il l'appellera « mon enfant légitime ». À Timothée, mon enfant légitime, c'est-à-dire mon vrai fils. Mon vrai fils en la foi. Et Paul applique à Timothée un principe qu'il demandera aussi à Timothée d'appliquer au sujet du responsable. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. C'est le principe des racines et des ailes. Un chrétien est comme un arbre. S'il néglige ses racines au détriment de la largeur et la grandeur de ses branches, à la moindre tempête, il va culbuter. On a vu récemment encore des arbres tomber de toute leur grandeur. C'est pour ça que nous avons besoin, en tant que chrétiens, d'avoir des racines profondes. Profondes. Parce que quand la tempête arrive, nous résisterons, nous tiendrons, nous resterons debout. Et Paul l'a formé comme un enfant avec son père, et comme Jésus avec ses disciples. Timothée a débuté simplement dans cette église locale, et il a grandi dans l'amour pour les gens, pour l'œuvre de Dieu. Et travailler avec Paul, c'était sa joie. On peut même se demander, mais que serait Paul à la fin de sa vie sans Timothée? Il le dit qu'il a besoin de lui. « J'espère vous l'envoyer », dira-t-il au verset 23. Paul n'a que sur lui pour compter. Il veut l'envoyer à Philippe parce qu'il juge que ces chrétiens ont besoin d'être encouragés. Mais s'il n'a que Timothée sur qui compter, et puis qu'il l'envoie à Philippe, qui va aider Paul? Nous voyons ici que vraiment l'humilité doit devenir un trait de caractère. Nous devons cultiver un esprit d'humilité, que ça devienne une caractéristique de notre personnalité. Ça ne peut pas se faire en un jour. Un bon sermon sur le sujet ne suffit pas. Même un séminaire, une année de service ne suffit pas. C'est un travail de toute une vie chrétienne. Et l'esprit d'humilité grandit en nous quand nous apprenons à nous soumettre au Seigneur, quand grandit en nous par son esprit le cœur pour le prochain. Alors je termine avec ce dernier exemple que Paul donne, qui est Épaphrodite, à partir du verset 25. Voici un nom qui est bien grec. Épaphrodite est dérivé du mot Aphrodite. Aphrodite était une déesse, la déesse grecque de la beauté. Donc Épaphrodite en est le masculin, qui veut donc dire beau et charmant. Alors, remarquez l'évolution dans les exemples, car on voit dans les Actes des apôtres combien d'apôtres ont eu de mal à suivre l'évolution de Dieu. Paul, lui, était hébreu, né d'hébreu. Timothée, lui, était mixte, mère hébraïque et père grec. Et Épaphrodite, avec un nom pareil, était grec de pure souche. Et voyez combien il était précieux à Paul au verset 25. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous aviez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Voyez les qualificatifs de ce frère. Il est à la fois frère, un frère proche, mon frère, Épaphrodite. Et il est collaborateur, mon compagnon d'œuvre. Il est assistant spirituel, mon compagnon de combat. Il est serviteur, celui qui fait parvenir à Paul de quoi vivre pendant son emprisonnement, parce qu'on devait le nourrir. Épaphrodite était l'homme à tout faire. C'est ça aussi l'humilité. Il ne dit pas « moi, j'ai tel don et je m'y applique seulement. J'ai le don d'enseigner et je n'évangélise pas. Moi, je suis missionnaire, je ne suis pas diacre. » On entend souvent dire cette réflexion « je ne suis pas un bouche-trou. Je ne suis pas une roue de secours. » Et pourtant, si c'était l'œuvre de Dieu, allons-nous refuser l'œuvre de Dieu? Épaphrodite était prêt à tout faire du moment que c'était l'œuvre de Dieu. Et là aussi, nous avons des exemples dans la parole. Pensez à Néhémie, quand il a construit les murs de Jérusalem et que les ouvriers travaillaient à la construction du mur de Jérusalem qui avait été détruit. Il est dit qu'il travaillait l'épée dans une main et la truelle dans l'autre. Beau passage, hein? L'épée dans une main et la truelle dans l'autre. On ne peut pas construire avec une épée et on ne peut pas combattre avec une truelle. Mais pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, il faut les deux. Celui qui est humble devient polyvalent. dans Acte 8, il y a le récit de l'évangélisation de Samarie. Vous vous souvenez, comme Philippe a été envoyé miraculeusement comme évangéliste pour évangéliser la Samarie. Mais Philippe était diacre, il avait été désigné diacre et il devient évangéliste. Alors notre chapitre se termine avec quelques beaux versets concernant Épaphrodite. Verset 26, « Il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Ben, » c'est étonnant. Malade et près de la mort. Et il ne s'inquiète pas pour lui-même. Il était fort en peine que les gens se fassent du souci à son sujet. Les mots grecs ici pour « fort en peine » sont surprenants parce que c'est les mêmes mots qui sont employés au sujet de Christ quand il est parlé d'une forte tristesse dans le jardin de Gethsémané et que Christ était envahi par une forte tristesse, fort en peine. Comme Christ, Épaphrodite savait ce que signifie service et sacrifice. Signe d'une humilité authentique. Et Paul conclut avec ces mots au verset 29. Recevez donc dans le Seigneur avec une joie, toujours la joie, entière, et honorez de tels hommes. Et il parlera une dernière fois, un peu plus loin, au chapitre 4, au sujet d'Épaphrodite. Il dira, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il me semble qu'il y a là vraiment un appel de Dieu pour nous tous. Et l'appel s'adresse à chacun, à moi en particulier. Suis-je prêt à développer un esprit d'humilité comme un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable, un parfum de bonne odeur. Qui veut grandir en humilité, comme Jean-Baptiste l'avait déjà exprimé, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors il y a un véritable appel dans ces quelques versets, entre les versets 12 et 16. Paul fait un appel à ceux qui liront cet épître. Mais bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Alors, je termine avec une petite conclusion que j'ai lue dans le journal avant l'heure de Serein, place du Perret. Alors, notre frère Floribert, qui est notre ancien, avait mis un petit article que je trouvais tellement bien que je l'avais découpé. Et alors, en préparant, j'ai pensé à cet article et je vous l'ai mis pour terminer. Alors, c'était dans avant l'heure du mois de mars, l'année passée, il y a un an. Il y avait un titre « Abat l'orgueil au service de Dieu ». Et il donne qu'en conclusion, quatre points que nous devons suivre pour abattre l'orgueil au service de Dieu. Premièrement, demeurez près de Dieu. Demeurez en communication avec le Seigneur Jésus par une vie de prière disciplinée, une étude biblique assidue, une méditation de la parole de Dieu dans votre vie. Ceci vous aidera à garder vos yeux sur sa gloire. 2. Priez et jeûnez. S'il y a de l'orgueil dans votre vie, essayez de vous en défaire. David a dit au psaume 35, « J'humiliais mon âme ». Volontairement, par le jeûne, je priais la tête penché sur mon sein. 3. Demeurez près des autres, que le service que vous rendez à l'Église ne vous isole pas des autres. La Bible dit que vous devez persévérer dans la communion fraternelle. 4. Ne recherchez pas une position. Psaume 75 dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Dieu vous élèvera à la position qu'il a réservée pour vous, quelles que soient vos circonstances. » Et il donnera comme conclusion « L'orgueil est dangereux parce qu'il est subtil, il est comme une mauvaise herbe dans un champ de blé, il va grandir et prendre le contrôle, et si nous ne faisons rien pour l'empêcher, il est destructeur. » Alors puissions-nous, oui, répondre à l'appel de Dieu et lui dire « Seigneur, me voici pour te servir comme tu veux, avec tes sentiments, selon ton plan. » Oui, Seigneur, je suis disposé à suivre tes principes. Prions. Ô Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous as donnée ce matin pour ouvrir ta parole. Merci, Seigneur, pour ce deuxième chapitre des Philippiens qui parle fort, qui nous éclaire, oui. Et nous voulons, oui, nous humilier devant toi, Seigneur. Nous te demandons pardon pour notre égoïsme parce que beaucoup de nos décisions sont prises par égoïsme. Nous te demandons pardon pour nos exigences personnelles, même pour les pressions que nous mettons sur ceux qui nous entourent parce que cela nous arrange personnellement. Pardon, Seigneur, d'être toujours préoccupé par ce qui nous touche, par nos propres intérêts. Pardon, Seigneur, d'ignorer les intérêts des autres. Ô Seigneur, donne-nous cette conviction. Montre-nous l'enjeu spirituel primordial de l'humilité pour nous-mêmes, pour nos familles, notre Église, ceux que nous essayons d'évangéliser. Oui, Seigneur, nous voulons avoir des opinions solides à ce sujet. Merci pour ces 4 exemples que nous avons vus dans ta parole et qui nous inspirent ce matin. L'exemple de Christ, l'exemple de Paul, de Timothée, d'Épaphrodite. Ô Seigneur, que ton esprit souffle sur ton Église, que nous puissions devenir tous, les uns et les autres, des serviteurs conformes à ta volonté. Nous voulons avoir un cœur pour les autres. Donne-nous un esprit de sacrifice. Donne-nous cette bonne volonté d'être spontané. Donne-nous cet empressement pour le service. Ô Seigneur, réalise tes plans envers chacun d'entre nous et que ton œuvre progresse, que ta gloire se manifeste, qu'il n'y ait plus aucun frein à cause de nous-mêmes, de notre égoïsme. C'est en ton nom, Seigneur, que nous te prions, sachant qu'une prière formulée en ton nom, c'est comme une prière prononcée par toi-même. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.